Bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous écoutez le dernier épisode de la saison 2, c'est l'épisode final. Et comme l'année dernière, eh ben, on va faire un épisode un peu spécial, où on va surtout se faire des petits jeux. Mais comme le Covid, c'est un peu la fin, bah, y a moins de monde de disponible. Mais on a quand même réussi à être quelques-uns autour de cette table virtuelle. Et on va commencer tout de suite les présentations par, eh bien, Héloïse. Comment ça va, Héloïse, aujourd'hui?
Eh ben, ça va très bien. Je suis contente d'être là.
Eh oui, c'est vrai que t'es une des dernières arrivantes sur cette saison, et t'es là pour le final, et ça, c'est plutôt chouette. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'avec nous, on a l'une des premières arrivantes de cette saison, à savoir Elia. Comment ça va, Elia?
Hola, ça va bien, et toi?
Bah oui, moi, écoute, ça va, dès qu'on enregistre, je suis super content, de toute façon, ça s'entend à ma voix, même si c'est de la comédie, ça donne quand même l'impression que tout va pour le mieux. Et notre dernier invité, c'est un monument de cette émission qui est présent parmi nous, de cette saison 2, qui a participé à de très 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 nombreux épisodes. Je vais bien sûr parler de Nicolas. Comment ça va, Nico?
Yes, ben, je suis super ravi. En vrai, ça me manquait un petit peu de pas être avec vous. Et c'est vrai que j'étais assez présent au début de la saison, beaucoup moins à la fin. Donc ouais, ça fait bien bien plaisir de revenir.
Bah, ça nous fait plaisir de t'avoir. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai presque pas eu l'impression que t'étais absent de la deuxième partie de la saison parce qu'on a fait d'autres petits projets, on a participé ensemble à d'autres petits projets côte à côte qui vont pas tarder aussi à sortir. Donc je préviens les chers auditeurs que vous allez entendre la voix de Nicolas pendant pas mal de semaines qui vont suivre normalement.
Voilà,
petite teasing. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite cette émission un peu spéciale par un nouveau jeu que j'ai fait ce matin, qu'on m'a proposé de faire ce matin, qui s'appellera, du coup, Info ou Intox. Voilà. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est que je vous donne une information, et en gros, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Et puis voilà. Donc, vous allez voir souvent que c'est des trucs un peu étranges, parfois un peu rigolo, c'est des trucs que j'ai chopé sur Internet, hein, je vais pas vous mentir, voilà. Donc,
Ok, ça a l'air trop bien.
Ok, alors du coup, ce que je vous propose, c'est que comme c'est un jeu, on va faire le principe du top. Vous allez toper dans le Discord, et du coup, la première personne qui top aura la réponse. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire comme d'habitude, taper un top d'avance. Voilà, comme est en train de faire Nicolas en ce moment. Mettez votre petite main sur Enter, et puis comme ça, vous êtes prêt à envoyer. C'est parti. Ok, alors première information, la Terre n'est pas ronde. Ok, donc moi j'ai Héloïse en première.
Ah, c'est une info, la Terre est ronde.
Et non, la Terre n'est pas ronde. La Terre est un sphéroïde aplati vers l'épaule, donc techniquement parlant, c'est pas vraiment une sphère.
Excuse-moi.
Oh là là, ok, il y a du niveau.
C'est quand même globalement une sphère.
Je me sentais l'arnaque, j'ai même pas topé.
Moi j'étais d'accord avec Héloïse. Hein.
Merci, je me sens moins seule.
En fait, c'est le premier truc que j'ai vu ce matin, j'étais là, oh, c'est vicieux, j'aime bien. Et voilà. Du coup, ça va être un peu ce genre de truc que vous allez avoir. Ça vous donne un peu le ton de ce premier petit jeu. Alors, c'est parti. Deuxième idée, deuxième information. Je vous laisse refaire votre top si vous devez le faire. C'est parti. Il est légal de s'échapper de prison au Mexique. Alors, on a donc Elia cette fois-ci.
Allez, je vais dire vrai.
C'est vrai, effectivement, dans plusieurs pays, dont le Mexique, l'Allemagne et l'Autriche, on considère que le désir d'évasion de prison est un instinct de base de la nature humaine plutôt qu'un acte illégal. Donc du coup, l'évasion n'est pas considérée comme un crime en soi. Par contre, on tentera quand même de vous rattraper. Mais vous ne serez pas condamné en plus pour vous être évadé.
D'accord.
Voilà. C'est génial. Attends, c'est quel pays, t'as dit?
Alors, Mexique, Allemagne et Autriche.
Ok, c'est beau jeu.
C'est plutôt beau jeu, je trouve. C'est genre, oh, t'as essayé, bah, c'est pas grave.
C'est clair.
Bien tenté, quoi, t'inquiète. Je trouve ça plutôt sympathique, en effet. Alors, troisième information. On ne saura jamais vraiment qui a inventé la bouche à incendie, car le brevet contenant son invention a péri dans un incendie du bureau des brevets de Washington en 1836. Alors, du coup, c'est Elia, encore une fois.
Vas-y, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Trop long pour que ce soit faux.
C'est trop long.
Mais ça a beaucoup trop drôle pour ne pas le mettre. C'est vraiment l'ironie du sort, tu sais.
Mmh.
Alors, quatrième information, l'Empire ottoman était encore présent lorsque la Warner Bros. A été créée? Alors, Héloïse, t'as topé en premier.
Moi, je dirais que c'est vrai, puisque l'Empire Ottoman, il a été mais super long. Pas en tant que l'Empire Ottoman tel qu'on l'apprend à l'école, mais il me semble qu'il a duré d'une certaine manière, politiquement, en fait, hyper longtemps, non?
Ouais, c'est pas jusqu'en dans les années 20, un truc comme ça?
Alors, effectivement, vous avez tous les deux raison. L'Empire Ottoman a duré jusqu'en 1922, officiellement. Maintenant, la question, c'est à partir de quand la Warner Bros. A été créée?
Elle est vieille, la Warner Bros.
Et effectivement, la Warner Bros. Est assez vieille, mais le souci, c'est que la Warner Bros. A été créée officiellement en 1923.
À une année près, sérieux.
À un an près. Alors là, en plus, où c'est fourbe, c'est que les frères Warner avaient d'autres sociétés de production avant de créer la Warner Bros. Company en 1923. Ils avaient plein de petites sociétés de prod, et c'est leur dernière qui a marché à partir de 1923, en fait.
Mmh. D'accord.
Donc techniquement, les frères Warner ont produit des films en même temps que l'Empire Ottoman, mais du coup, la Warner Bros. À l'heure actuelle, c'est pas la...
C'est, mais
pas
c'est la... marrant ouais, de dire ça comme ça, c'est assez drôle.
Ouais, c'est assez fou d'avoir des comparatifs comme ça, de savoir des trucs qui ont été en même temps ou non, d'ailleurs. Alors, information numéro 5, vous êtes prêts?
Prêt, j'ai pas encore de points, je suis prêt.
Alors, les mammouths ont vécu en même temps que la construction des pyramides. Alors, c'est Héloïse qui a tapé en première.
S'il te plaît. Oui, ils étaient réfugiés tout au sud, tout au nord, qu'est-ce que je raconte, de la Russie, mais il y en avait pendant la construction des pyramides, au moins les toutes premières.
Il y avait des mammouths pendant les constructions des premières pyramides, c'est exact.
S'il te plaît, là, je ne pouvais pas me rater sur celle-là.
Et franchement,
ok, alors moi, je suis une bille en histoire. Mon cerveau, il est en mode, de quoi?
je trouve ça vraiment très, très cool comme info, parce que alors du coup, pour donner les dates, les derniers mammouths seraient morts environ 1700 avant JC, donc tout au nord sur une vieille île pourrie de la Sibérie. C'est des mammouths un peu dégueux et un peu rachitiques. Et la construction des premières pyramides, c'est 2560. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, est-ce que le film 10 000 n'a pas un peu raison en faisant construire des pyramides par des mammouths? Je ne sais pas.
Ah, non, j'ai jamais il n'aurait pas pu vivre.
Mais oui, en même temps, ouais, je pense que le biome est pas assez froid.
Non, le biome est pas assez froid.
Laisse les mammouths en Antarctique, s'il te plaît. Ne les faites pas revivre actuellement. Stop. Mais après, ils ne sont pas adaptés.
Si t'as des Égyptiens, tu vois, qui vont au nord, est-ce qu'ils auraient pas pu construire des pyramides avec les mammouths?
Non, mais on parle pas des mammouths ici. Là, c'est une autre chose.
Ou alors la pyramide dans Alien versus Predator a peut-être été construite par des mammouths, par des Égyptiens. Hein.
Voilà. Ouais.
Théorie du complot, tout ça. Alors, après avoir parlé un peu d'histoire, on va parler un peu cuisine pour l'affirmation suivante. Ajouter de l'huile dans l'eau empêche les pâtes de coller. Alors, nous avons donc Elia en première.
C'est vrai?
C'est faux.
C'est faux.
Ah non, ouais, c'est ma maman m'a menti.
Je savais.
Tu savais, t'as dit toi que c'était faux?
Oui, mais en vrai, je crois que je l'ai lu sur Internet il y a genre 2 ou 3 jours.
Qu'on a lu la même chose. En
c'est
fait.
Possible.
Non, mais apparemment, ça sert absolument à rien du tout parce qu'en fait, de toute façon, comme l'huile est pas vraiment capable de se mélanger à l'eau, ça a pas spécialement d'effet sur les pâtes. Par contre, si on rajoute de l'huile dans l'eau, ça serait plutôt pour empêcher l'eau de déborder ou de former de l'écume. Apparemment, ça permettrait ça. Ça, par contre, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai trouvé ça comme raison derrière.
Okay,
donc,
okay.
Donc, je me rends compte à mi-parcours que je n'ai pas compté les points du tout.
Alors, est-ce qu'on est là pour la compète ou pour s'amuser?
Alors, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes là pour la compète ou là pour vous amuser?
Moi, vu que je perds, je suis là pour m'amuser, hein, perso.
C'est un peu ça l'idée aussi.
Moi, ça me va, s'amuser, c'est très bien.
On va dire qu'on s'amuse. Alors.
On va dire qu'on s'amuse.
On est de si mauvaise compagnie que ça, Marc.
Non, pas du tout. Affirmation suivante, c'est sur de la musique cette fois-ci. Mozart a composé « À vous dirai-je, maman ».
Ah, personne ne...
Surtout qu'on ne se précipite pas pour répondre.
Ok, vas-y, Elia.
J'ai envie de dire qu'il a composé un air qui ressemblait à ça et qui a été dérivé en ça.
Ah ah, du coup, c'est faux, alors.
Bah, ça dépend. Ouais, c'est faux.
Ok, c'est faux. C'est faux, cette mélodie a été popularisée par les 12 variations pour piano de Mozart, mais elle existait déjà avant. C'est juste que du coup, on a simplifié aujourd'hui, on dit que c'est Mozart qui a créé « À vous dirai-je, maman », alors qu'en fait, c'est pas vrai.
Ok.
Ah, donc c'est bien un truc qu'on dit?
Ouais. Alors, on va retourner un peu en histoire, avec l'affirmation suivante. La cavalerie polonaise a chargé des panzers allemands en 1939. Nico, vas-y.
En vrai, je sais pas, mais je vais dire vrai.
Grosse panique.
C'est clair.
C'est faux.
C'est faux, ok.
C'est faux. C'est une idée reçue parce qu'en fait, en 1939, l'armée polonaise a affronté bien évidemment l'armée allemande, hein, pendant la Blitzkrieg. Et en fait, la cavalerie polonaise a fait une charge héroïque sur l'infanterie allemande. Bon, ils ont fini par perdre la guerre, hein, bien évidemment. Mais en fait, du coup, la propagande nazie a repris le truc en disant que la cavalerie polonaise avait comme des gros cons chargés sur les panzers allemands.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu débile. Hein.
Et en gros, il les a fait passer pour des gros débiles. Sauf que du coup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots. Et encore aujourd'hui, c'est une idée assez reçue sur la Seconde Guerre mondiale que, en fait, la dernière charge de cavalerie, puisqu'en fait, il s'agit là vraiment de la dernière vraie charge de cavalerie jamais réalisée par une unité de cavalerie, était contre des panzers allemands, alors qu'en fait non, c'était classique contre de l'infanterie basique. Et même moi, ça je le savais pas, hein. Tout à l'heure quand j'ai vu ça, j'étais là, oh bah ben, c'est dommage, je trouvais ça classe de charger des panzers. Moi.
Ouais, mais tu vois, ça fait classe, mais en même temps, ça manque de logique.
En fait, il y a un côté héroïque, mais stupide en même temps.
Voilà.
C'est ça, donc en fait, du coup, c'était assez logique que ce soit pas le cas. Alors,
mais c'est bien, on apprend plein de trucs. Hein.
Ben oui, mais moi j'ai appris tout ça ce matin. Vraiment, j'ai fait ça. J'étais très content de retrouver plein de petites informations comme ça à droite à gauche. Il nous reste deux petites affirmations. La suivante, c'est celle-ci. Le fruit défendu de la Bible n'est pas une pomme. Ok, donc Héloïse, t'as topé.
Ça dépend de la traduction. Il y a beaucoup de traductions dans lesquelles c'est une pomme. Mais la pomme étant une métaphore pour la connaissance, est-ce que le fruit défendu est vraiment une pomme ou plutôt la connaissance? Ça dépend dans quel sens on prend la question.
Ah ah. Eh ben, moi je vais la prendre au sens littéral, c'est qu'apparemment dans le texte de base, donc hébraïque, en fait on parle juste de fruits, et du coup en fait on sait pas.
Donc ouais, ça peut être n'importe quel fruit.
C'est juste que c'est en Occident, comme la pomme est un fruit qui est très répandu, c'est devenu une pomme, dans nos traductions à nous. Mais apparemment, selon plusieurs rabbins, potentiellement, ça serait plutôt des dattes, des raisins ou des fruits plutôt de Palestine, quoi, en fait. Ce qui, encore une fois, est assez logique, puisque ça vient de là-bas, quoi. Donc,
ouais. De toute façon, les traductions bibliques, elles sont particulières, on va dire, étant donné que ça a été traduit par des personnes qui voulaient faire dire ce qu'elles voulaient au texte. Donc, techniquement, plein de choses qui sont plus de limites. Ève qui est sortie de la côte d'Adam, en fait, ce serait faux. Marie n'était pas vierge. Plein de choses comme ça, vous voyez. Du coup, c'est pas plus étonné que ça.
Oui, t'as beaucoup de trucs sur la virginité de Marie. Alors, moi, j'avais une question, puisqu'on parle de la côte. J'avais eu cette information, mais je sais plus d'où je la sors, que l'idée que la femme viendrait de la côte, ça serait pas la côte, mais ça serait de l'os pénien, puisque les humains n'ont pas d'os pénien, et que du coup dans la Bible ils auraient repris le seul truc qui nous manque par rapport à d'autres mammifères. Est-ce que c'est vrai ça, ou c'est une grosse légende?
C'est une grosse légende, parce qu'en fait on n'est pas les seuls mammifères à pas avoir d'os pénien. Globalement, quand tu regardes tous les grands singes, il n'y en a aucun qui a un os pénien, donc ça paraît logique vu notre évolution scientifique, on va dire. Non, surtout la traduction en fait qui est la plus plébiscitée à l'heure actuelle, ce serait qu'en fait Ève aurait été créée du côté d'Adam. En fait, du coup, elle aurait été créée à ses côtés. Et donc, elle serait son égale, en fait, techniquement. Mais vous comprenez, ça arrange pas le patriarcat, du coup, surtout, on n'en parlera pas.
Ouais.
Alors, c'est super intéressant. Moi, j'avais lu un article, justement, par rapport à cette histoire de côte, et qui disait qu'en fait, ce serait une mauvaise traduction du mot, qui, en fait, veut dire que c'est... qu'ils seraient tous les deux issus d'une... En fait, ils seraient un tout, et c'est deux côtés différents d'une seule chose, en fait. Donc, la femme et l'homme sont séparés. Enfin, ils viennent d'un tout et ils sont séparés. C'est pour ça qu'elle est à côte. En fait, elle est la moitié, mais lui aussi est sa moitié. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
C'était plus ou moins ce que je disais, mais moi, je disais qu'ils avaient été créés ensemble. Mais c'est vrai que cette idée de complémentarité, elle est hyper intéressante, puisque c'est... Alors, je ne sais plus quel philosophe de la Grèce antique qui parlait de l'homme et de la femme comme étant, en fait, à la base des géants qui étaient collés côte à côte, et qui en fait à un moment les dieux n'ont plus supporté qu'ils soient aussi heureux et aussi complets, et du coup ils ont séparé les hommes et les femmes, et ils ont fait en sorte que chacun toute sa vie cherche sa moitié, et c'est pour ça qu'on parle de chercher sa moitié quand on cherche l'amour, etc. Et en fait ça me fait vachement penser à ça. Bon, après il faut voir ça dans une vision très hétéronormée, mais ces idées sont intéressantes.
C'est le banquet de Platon, hein, du coup.
Merci Marc.
Je t'en prie.
Ok. Est-ce qu'ils mangeaient des pommes au banquet ou c'était des dattes? Je sais plus.
Probablement un peu des deux. Et bien du coup, dernière info ou intox. Vous êtes prêts?
Oui.
On va parler littérature cette fois-ci.
Ouais, sans moi.
La phrase élémentaire, mon cher Watson, n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle. Ok, du coup, on a donc Héloïse, je crois. C'est ça, hein?
Bon, pour moi, c'était Nicolas.
Ah, non, c'est, pas, c'est juste qu'en fait, il m'a pas réactualisé le fait que oui, t'as 15h17, toi, c'est ouais, ça. Ouais. Oui, donc c'est toi, Nicolas.
Tu ne vois plus, c'est pas grave. je dirais que c'est faux, parce que ça sonne bien, tu vois, comme histoire à sortir.
Ah, tu veux dire que
ça n'a jamais été écrit.
Ah, ça n'a jamais été écrit, oui, donc c'est, ouais. donc c'est vrai. Okay. Oui, bah, du coup, oui, c'est ça. Effectivement, la phrase « Élémentaire, mon Sherlock Holmes » n'a jamais été écrite par Arthur Conan Doyle. Elle apparaît pour la première fois dans l'un des premiers films Sherlock Holmes, qui a été sorti en 1928, je crois, quelque chose comme okay. ça. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve les deux dans les... alors, comment dire ça ? On retrouve la phrase séparée dans les bouquins. C'est-à-dire que souvent... Il va dire élémentaire,
ouais.
et il va dire mon cher Watson, mais jamais les deux ensemble. En fait.
Okay.
Voilà, c'est D'accord. juste que ça a été fusionné pour en faire qu'un seul, et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, maintenant, c'est.
Ouais, c'est devenu la catchphrase de.
Catchphrase, ouais, c'est indissociable presque.
Yes, ok.
Et voilà donc comment s'achève ce petit jeu info ou intox. Voilà. Ça vous a plu ?
Oui, et ben, on a appris plein de trucs, donc c'est toujours super cool. Hein.
Yes. Et bah du coup, si ça vous a plu, il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Peut-être que ce n'est que le début de tout ça. Ok, bah du coup, on va faire un synopsis fusion sur une thématique un peu spécifique. Et ce que je vous propose, c'est que je ne vous donne pas la thématique. Et il va falloir que vous essayiez de la trouver avec les synopsis. Bah, je pense que vous allez trouver assez rapidement, mine de rien. Alors, pour rappel, Synopsis Fusion, du coup, c'est deux synopsis que j'ai récupérés sur Allociné qui ont été mélangés pour faire le synopsis d'un film qui n'existe pas, mais qui ressemble quand même à un film qui pourrait potentiellement exister. Du coup, ce film a donc un synopsis, mais a aussi un titre que j'ai choisi, qui est aussi une fusion des titres des deux œuvres. Votre but à vous, c'est de trouver de quel film il s'agit. Donc, ça sera un point par film trouvé. Et ensuite, de trouver le titre que j'ai choisi. Et en bonus, si vous arrivez à trouver la thématique globale de ce petit jeu, bah vous aurez, vous aurez, je sais pas, 5 points bonus, allez, on va dire. Hop.
Ah ouais, ça monte au début.
Et ouais, t'as vu ça, hein. Cool. Un peu de compétition.
Je vois que ça t'a déçu qu'on n'ait pas compté les points la première fois.
Je crois que j'ai jamais gagné un jeu sur cette émission.
C'est vrai ? Non. Mais après, pour ta défense, Nico, je crois me souvenir que t'étais quand même très régulièrement avec Maxime.
Oui, ouais. C'est vrai que ça aidait pas.
Ce qui, effectivement, n'aide pas quand il s'agit de parler de cinéma. Pour vous repréciser, parce que Hélo et Elia, vous l'avez jamais fait, je vais vous lire le synopsis en entier. Vous pouvez envoyer votre top direct si vous voulez, mais j'irai jusqu'à la fin du synopsis quand même au cas où. Et puis après, je reverrai dans le chat qui a topé en premier, puis qui a topé en deuxième si le premier n'a pas trouvé, etc., etc. Je l'ai déjà testé en dehors, il est un peu difficile, donc je ne sais pas si vous allez trouver ou pas. Allez. C'est parti. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Aku qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois.
C'est tout ?
C'est tout.
Je vois qu'on est très inspirés.
Ah, et du coup, vous avez...
Il y a un lien avec Robin des Bois, ça j'en suis quasiment sûr.
Ouais.
Je vous laisse couper, hein, si vous voulez. Votre but, c'est de me trouver deux films. Donc, donc du coup, Héloïse s'est lancée. Alors vas-y, Héloïse.
J'aurais dit un mélange entre Toy Story et Robin des Bois.
Et donc du coup, tu as raison pour Robin des Bois, mais ce n'est pas Toy Story. Ah, il est difficile. Vous voulez que je vous le redise ?
Ouais, je veux bien.
Ouais.
Ok. Une affreuse fillette qui maltraite ses sujets est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait halte dans une forêt délabrée. Elle rencontre alors l'énigmatique Aku, qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois. Vous avez le droit de donner votre langue au chat. Ah, donc Hélo a retapé, vas-y.
Est-ce que ce serait pas Alice au Pays des Merveilles et la vilaine reine ?
Ah, alors non, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, mais on se rapproche de ce genre d'univers, on va dire.
C'est un dessin animé.
Je donne ma langue au chat, du coup.
Ah ah.
Mais... Moi, j'ai une question, c'est un animé ?
Oui, c'est un animé.
C'est le Voyage de Chihiro ?
C'est le Voyage de Chihiro, oui, exactement.
Ah.
Mmh.
Alors du coup, vu que Elia et Hélo, vous avez chacune un point, je vais proposer à Nico, pour rétablir l'équilibre, de me trouver le titre que j'aurais choisi entre la fusion du Voyage de Chihiro et de Robin des Bois.
Je propose le Voyage de Robin des Bois.
Malheureusement, j'ai choisi Chihiro des Bois.
Mais t'as raison, c'est plus en raccord avec l'histoire que tu nous as concoctée.
Ouais, je suis désolé, j'ai essayé de faire les synopsis les plus réalistes possibles, donc des fois, ça... essayez de vous concentrer souvent sur les prénoms des personnages, ouais, qui sont des gros gros indices. Allez, c'est parti.
Alors Marc, attends, je pose une question, parce que c'est le prénom qui m'a donné l'idée du voyage de Chihiro, mais est-ce que du coup le synopsis du voyage de Chihiro a été modifié dès le départ aussi?
Ah oui, tout a été modifié. En gros, si je peux vous dire, une affreuse, ça vient de Chihiro, affreuse, j'ai féminisé le nom du coup pour ça, il y avait Fillette, mais ça vient de Romain Desbois. Fillette, c'est Chihiro, qui maltraite, c'est Romain Desbois. Mm-hmm. En route vers sa nouvelle demeure, en compagnie de ses parents, c'est Chihiro. Au cours du voyage, elle fait halte, c'est Chihiro. Forêt délabrée, c'est Robin des Bois. Elle rencontre l'énigmatique Haku, c'est Chihiro. Et qui deviendra son seul allié contre l'insaisissable Robin des Bois, c'est Robin des Bois.
Okay.
En gros, ça marche comme ça. C'est vraiment, il n'y a rien d'inventé en termes de mots. C'est juste que je prends les bouts de synopsis et je les colle les uns aux autres pour que ça fasse des phrases qui sont correctes. Les seuls moments où je triche, c'est quand je change le genre d'un personnage, parce que sinon, ça fait pas français, quoi. Si je fais un affreux fillette,
ou
alors si je mets du pluriel, tu vois, alors que c'est plusieurs personnages, c'est le seul moment où je me permets de changer.
Ça reste audible.
Faut que ça reste audible, tout à fait. Alors donc, synopsis suivant. Vous êtes prêts?
Vas-y.
Oui. Allez.
Le paresseux Jim Hawkins prend connaissance d'une carte menant à un fabuleux bébé pirate. Souhaitant le ramener à son père, il entreprend aux côtés du cyborg cuisinier Manny un voyage dans l'espace pour le protéger du galion de Diego. Fini. Ah, donc on a Héloïse qui top. Vas-y, Hélo.
Merde, j'ai plus le nom du deuxième film. Mais déjà, t'as l'âge des glaces.
T'as l'âge de glace, exactement, ouais. Tout à fait.
Ouais, c'est pareil, le deuxième, j'arrive pas à me souvenir du nom.
Essaye de me décrire le deuxième. Si t'as perdu le nom, c'est pas grave.
C'est un film qui se passe dans l'espace. Et, ouais. Mais...
Le truc avec les pirates dans l'espace.
Ouais, c'est ça, mais je...
Alors, Elia a topé, vas-y, Elia,
t'as plus.
C'est pas genre le voyage de Sinbad ou un truc comme ça?
Non, c'est pas le voyage de Sinbad. C'est bien un truc dans l'espace avec des pirates.
Ah, je l'ai sur le bout de la langue.
J'ai pas du tout.
Vas-y, Hello. Ouais.
Firefly.
Non, c'est pas Firefly.
Sérieux?
Non.
Zut.
Vous donnez votre langue au chat?
Bah oui.
Ouais.
C'est la planète au trésor.
Ah oui.
Ah ouais, bah je l'avais pas.
Du coup, est-ce que vous voulez essayer de deviner le titre? Que là, vous
on
avez
a dit que c'était créé. Quoi les deux?
C'est l'âge des glaces et la planète au trésor.
Ouais.
L'âge des trésors.
Ah, dommage, j'ai choisi la planète de glace.
Mais à chaque fois, tu choisis l'autre. L'inverse.
La prochaine fois, dites l'inverse de ce que vous pensez.
C'est clair.
Ok, alors, synopsis suivant. En juillet 1988, une mystérieuse explosion dans la jungle détruit Tokyo, déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Les plus jeunes se réunissent en gangs rebelles et se défient dans d'interminables courses de moto à travers le territoire des loups. Au cours d'une de leurs échappées, Keneda et Tetsuo manquent d'écraser un enfant abandonné et de le confier à une famille de loups qui l'élèvent comme un louveteau. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, Keneda et ses amis sont arrêtés par la police. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables. Alors, donc, je crois que c'est...
C'est moi ?
C'est toi, oui, tout à fait. C'est toi, Nico, vas-y.
Alors, je crois, il y a Akira, ça je suis
Akira,
sûr.
Akira, ouais, putain, bien
et
joué.
Et l'autre, je pense que c'est Princesse Mononoke, mais je suis pas sûr.
C'est pas Princesse Mononoke, non. Du coup, Elia, t'es de la suivante.
Est-ce que c'est le livre de la jungle ?
Le livre de la jungle, exactement. Et donc, du coup, pour aider Elo, c'est quoi le titre ?
On peut me rappeler le titre du premier, alors, s'il vous plaît, Akira, parce que je connais pas du tout.
Akira, et le deuxième, c'est le livre de la jungle.
Akira de la jungle ?
Le livre d'Akira.
Le livre d'Akira, ouais. Effectivement.
Je voulais dire le livre d'Akira, et puis j'ai dit, bah non, je vais dire la
vraie défense. Le livre d'Akira.
Ouais. On s'est fait avoir.
Alors, synopsis suivant. Le seigneur des ténèbres ne supporte plus que le petit village enchanté de Pridin résiste encore et toujours. Il propose alors un défi à Taram, apprenti sorcier et tous ses amis. S'ils remportent le chaudron magique qu'il leur soumet, il ne les attaquera plus. Héloïse, vas-y.
Bah, encore une fois, j'en ai qu'un sur les deux. Déjà, je suis sûre de Taram et le chaudron magique.
Tout à fait.
Mais l'autre, j'ai pas.
Et Nicolas, est-ce que t'as le deuxième?
Je pensais à Astérix.
Oui, Astérix, effectivement. Yes. Alors, est-ce que tu sais lequel exactement?
Je sais pas.
Non, enfin, c'était... Non. Non.
Alors, c'est les 12 travaux d'Astérix, mais je te le compte. Alors du coup, Elia, est-ce que t'as le titre du mélange des 12 travaux d'Astérix et de Taram et le chaudron magique?
Alors, attends. les 12 travaux de Taram.
Astérix et le chaudron magique.
Mais non, mais c'est pas possible.
Alors, je vous explique pourquoi j'ai choisi Astérix et le chaudron magique.
Mais il est incroyable.
Vous connaissez Astérix en bande dessinée. Vous savez qu'il y a un album de BD qui s'appelle Astérix et le chaudron. Et du coup, je trouvais ça rigolo de rajouter juste magique derrière.
Ok.
En fait, Marc, juste, tu as fait plein de titres et tu nous montres celui que.
Alors, du coup, on est un peu à mi-chemin. Est-ce que vous avez une idée de la thématique générale ou pas?
C'est vrai.
Les dessins animés.
Ouais, je tiens un rapport avec les dessins animés.
Les dessins animés, Héloïse, bien joué. 2, 3, 4, 5, on avait dit.
Ouh, un truc que je sais au moins.
Donc, maintenant, vous savez que vous devez rechercher des dessins animés. Alors là, on va passer sur un synopsis qui va être peut-être un peu difficile, je pense. Paris, 1910. Un jeune barbare millionnaire excentrique vit seul entouré de ses chats. Un jour, il se retrouve dans l'obligation de sauver les habitants de son village qui ont été capturés par le seigneur Volcazor. Il part alors vers une grande aventure avec la ferme intention de noyer l'ennemi avec l'aide de ses compagnons à quatre pattes. Ok, donc on a donc Héloïse, vas-y.
Non, comme d'hab, j'en ai qu'un. Par contre, je suis sûre, quasiment, c'est les Aristochats.
Tout à fait, c'est les Aristochats.
Et le deuxième, j'ai pas.
Alors, Nico, est-ce que t'as le deuxième?
Non, j'avais que le premier aussi, les Aristochats.
Ok. Alors, le deuxième, Elia, t'as le deuxième ou pas?
Non, j'avais que les Aristochats.
Alors, le deuxième, je vais vous le donner parce que même moi, je l'ai pas vu. C'est juste que pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas vu, c'est juste que je voulais un panel de dessins animés assez large. Et du coup, dans mon travail, il y avait plein de monde et j'ai demandé à chacun quel était son dessin animé préféré. Et du coup, j'ai récupéré les dessins animés préférés de tout le monde. Et là, en l'occurrence, c'était un dessin animé qui s'appelle Ranal le Barbare. Du coup, okay. À votre avis. Ouais, j'en avais jamais entendu parler non plus. Apparemment, c'est une sorte de dragon un peu plus adulte, paraît-il.
Okay. Voilà. Ok.
Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est les Aristochats et Ranal le Barbare.
Les barbares aux chats?
Les Aristobarbares?
Non, sérieusement?
Oui. C'est incroyable, hein, c'est fou.
À chaque fois, mais à chaque fois.
Incroyable. Allez, suivant. Mima est une icône pop, membre d'une salle d'arcade à succès. Quand elle décide de bousculer les règles et de voyager à travers les différentes séries télévisées, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar. Elle reçoit des messages menaçants sur Internet, d'inquiétants événements entourent Mima et ses proches. Pourtant, Mima va casser tous les mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but, prouver à tous qu'elle peut devenir un héros. Et donc, je crois que c'est Elo qui a topé, ou pas? Ou il n'y a personne?
Moi, j'ai topé, mais je sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait.
Oui, t'as topé, c'est bien toi. Bah vas-y, je t'écoute.
Vite, ça vient de me glisser au bout de la langue.
Ah.
Ah, Ralph.
Ralph, exactement, les mondes de Ralph.
Et le deuxième, c'est Merlin l'Enchanteur?
Non, c'est un animé aussi.
Ah, moi, j'ai pas, parce que...
Le deuxième, c'est Perfect Blue. Pareil, je l'ai pas vu, mais c'est un animé japonais, apparemment. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Elia et Nicolas.
Pas du tout.
Non, jamais vu.
Ok. Non. Et du coup, le titre, je vous laisse deviner, on mélange entre les mondes de Ralph et Perfect Blue.
Moi, je dis plus rien.
Moi, j'ai envie de dire Perfect Ralph.
Oui, c'est ça, Perfect Ralph. Oh yes. Alors, suivant. La jeune Sophie, quelque peu tête en l'air, détruit par inadvertance la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, Sophie décide alors, pour se faire pardonner, de quitter l'île dans les montagnes et tombe sur la demeure du Borgne, et fait main basse sur une partie de la récolte. Fou de rage, ce dernier annonce qu'il reviendra à l'automne avec son château ambulant. Et si tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire. Et donc du coup, nous avons Elia qui a topé en première.
J'ai instantanément oublié. Attends, en plus, j'étais là. Ah, celui-là, je peux pas le rater. Bon, déjà, le deuxième, bah, le château ambulant.
Tout à fait, le château ambulant.
Et mince, le premier. Ah, les malheurs de Sophie.
C'est pas les malheurs de Sophie, non. Le prénom de Sophie vient du château ambulant.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, j'aurais dit ça
aïe,
aussi.
Aïe, 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 aïe. Alors, du coup, Héloïse et Nicolas, vous aviez le château ambulant, c'est ça?
Ouais,
mais j'avais aussi les malheurs de Sophie.
Et les malheurs de Sophie aussi, ouais. Bah, je vous donne le deuxième, c'est Mille et une pattes.
Ah oui.
Voilà, là, un film Pixar, du coup. C'est là d'où vient le personnage du Borgne, l'idée de l'île. Et,
ok, il est dur un peu ce...
Ouais, c'est vrai, il est un peu le essayez de trouver le titre du film, donc mélange entre Mille et une pattes et le château ambulant.
Le château Mille et une pattes.
Le château Mille et une pattes.
Le château à mille pattes.
Le château à mille pattes.
Mille et un château.
Mille et un château, Nico, oui.
Oh, yes.
Ok. Alors, j'aime beaucoup le suivant. Jadis protégé par des rats géants, la forêt se dépeuple à cause de l'homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Rémi part à la recherche du dieu rongeur qui pourra le défaire du sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Rémi rencontre Auguste Gusteau à la tête d'une communauté de restaurants qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses cuisines. Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémi va découvrir le vrai sens de l'aventure, de l'amitié, de la famille et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est. Et donc, nous avons, je crois, Elia qui a topé en première.
Yes, je dirais Princesse Mononoke et Ratatouille.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Alors, en deuxième, on avait Héloïse. Est-ce que, du coup, tu as le mélange entre Ratatouille et Princesse Mononoke?
Princesse Ratatouille.
Princesse Ratatouille, exactement.
Oh,
bien.
Ouh.
Cool. Commence à devenir bon.
On commence à devenir bon.
On commence à réfléchir comme Marc.
Il en reste plus que trois. Alors, Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de l'Olympe. Elle est loin d'imaginer de pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Hadès, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant des enfers et ses nombreux plans pour gouverner. Tout bascule lorsqu'elle réalise qu'un seul obstacle se dresse sur son chemin, Hercule. Et je crois qu'on a encore Elia qui a topé en première.
Yes, je dirais Your Name et Hercule.
Oui, tout à fait, bien joué. Et donc du coup, Héloïse, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien être comme titre Your Name et Hercule? C'est vraiment du hasard total. Hein, à chaque fois.
Hercule Name?
Your Hercule.
Ah bah oui, non mais évidemment.
Your Hercule. Le truc qui veut rien dire.
C'est ça.
Le dessin animé doit être vraiment nul.
C'est bizarre. Est-ce que vous avez vu Your Name du coup? Parce que toi, Elia, je sais que tu l'as vu visiblement.
Non, j'ai jamais
yes.
vu.
Moi, je vous le conseille.
Si. Hein, il est vraiment extraordinaire.
Il est incroyable.
Ouais.
C'est un très très bon film. Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste se lance dans un incroyable voyage à bord de son splendide hydravion rouge en compagnie de Christophe, un montagnard expérimenté établi sur une île déserte de l'Adriatique. Ils partent à la recherche de sa sœur. En chemin, ils vont venir en aide aux personnes en difficulté. Et bien du coup, Elia, encore une fois?
J'en ai qu'un sur les deux, ouais. Porco Rosso.
Porco Rosso, exactement. Et alors le deuxième, est-ce que t'as pas une petite idée quand même?
Pas du tout.
Pas du tout. Et toi Nico, est-ce que t'as une idée pour le deuxième?
Pas le tombeau des Lucioles, le deuxième?
Non, c'est pas le tombeau des Lucioles. Et Héloïse?
Heidi.
C'est pas Heidi, mais effectivement, ça se passe dans les montagnes.
Ah. Mmh.
Donnez votre langue au chat.
On vise un animé ou un dessin animé?
Un dessin animé traditionnel. Enfin, traditionnel, classique, quoi.
Dans les montagnes.
Bah, d'ailleurs, vous devriez avoir remarqué un petit pattern à chaque fois, normalement, dans chaque synopsis fusion.
Ah ouais? Genre, il y a un truc caché en plus du thème.
Oh oui, parce que je suis un
réception.
Oh. Le deuxième film. Le deuxième film, c'est La Reine des Neiges.
Ah, ah oui, ok. Okay.
Maintenant, je peux vous le dire, systématiquement, dans chaque synopsis, il y a toujours au moins un Disney Pixar.
Mmh. Ah, d'accord.
Mmh. Donc, film, souvent moins connu. Et la plupart du temps, issu de l'animation japonaise.
Ok.
Ou alors, l'animation différente, on va dire.
Tu nous dis ça à la fin du jeu?
Ouais.
Bon, il y a un synopsis.
Effectivement, il en reste,
enfin.
Enfin, là, vous allez le trouver normalement. Ah oui, non, mais attends, on n'a pas trouvé le titre, je suis con.
Ah oui.
C'est quoi le titre? Alors, on va passer à celui qui a le moins de points. Nico, t'as que 4 points. Est-ce que tu peux le titre du mélange entre Porco Rosso et La Reine des Neiges?
Porco des Neiges.
Ça a plus de sens, mais j'ai pris La Reine des Porcos.
Évidemment.
Oh, mais non, je te dis.
Alors, le dernier synopsis. À la tête d'un royaume mythique se trouve un ogre verdâtre, cynique et malicieux. Empereur aussi capricieux que méprisant, il projette de bâtir une somptueuse résidence d'été dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Il fait d'ailleurs venir le chef du village, Pacha, pour le prévenir qu'il aura le grand honneur de voir sa maison détruite. Or, le seigneur cache un secret terrifiant qui va entraîner Pacha dans une palpitante et périlleuse aventure. Et donc, je crois que c'est Héloïse qui a topé en première cette fois-ci.
Oui, et pour changer, j'en ai qu'un, Shrek.
Shrek, exactement. Est-ce que Nico, tu as le deuxième?
C'est pas Cusco le deuxième?
C'est Cusco, oui. Cusco, l'empereur mégalo et Shrek. Allez Nico, à toi, tu peux le faire, tu peux trouver le titre.
Non mais il y a que deux possibilités.
Alors je te redonne les titres. Il y a Shrek et Cusco, l'empereur mégalo.
D'accord. Du coup, je dirais Shrek, l'empereur mégalo.
Oui, c'est ça. C'est Shrek, l'empereur mégalo. Exactement.
Deux points.
Ouais. Alors, c'est terminé. On fait un petit décompte des points. Nico, tu as donc 6 points. Félicitations.
Allez.
Elia, 9 points. Félicitations.
Allez.
Et enfin, Héloïse, tu es vainqueur avec 13 points.
Oh là
là. Atomisé.
Ça, c'est parce qu'elle a trouvé la thématique qui lui a permis de gagner 5 points, souvenez-vous.
Forcément.
Sinon, elle sera à peu près à la même... Donc, bien joué, bien joué. Alors, désolé, c'est vrai que le niveau était peut-être un poil difficile. Peut-être que pour le prochain, j'essaierai de réduire un petit peu. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y avait des petites astuces. C'était un spécial dessin animé et systématiquement, il y avait donc un Disney Pixar avec Robin des Bois, La Planète au Trésor, Le Livre de la Jungle, Taram, Les Aristochats, Les Mondes de Ralph, Mille et une Pattes, Ratatouille, Hercule, La Reine des Neiges et Cusco. Et en face, on avait donc un dessin animé un peu plus alternatif, ou en tout cas d'un autre studio largement différent. Voyage de Chihiro, Âge de Glace, Akira, Les Douze Travaux d'Astérix, Ronald le Barbare, Perfect Blue, Le Château Ambulant, Princesse Mononoké, Your Name, Porco Rosso et Shrek. Shrek qui d'ailleurs fête ses 20 ans quand même, donc merci pour le coup de vieux Shrek, c'est très gentil.
Ouais, voilà. C'est peut-être pas obligatoire.
petite information de dernière minute. Et je vous propose donc qu'on passe à notre dernier jeu, qui est donc un blind test. Et là, ça va être un blind test un peu spécial, parce que une fois de plus, vous allez devoir trouver la thématique.
Ok.
Ok.
Donc pareil, celui qui trouve la thématique aura droit à...
1000 points, c'est ça?
Ouais, 1 milliard de points pour Gryffondor.
C'est ça, c'est comme Harry Potter, il faut le match, mais genre, on s'en fout de marquer des points, c'est celui qui attrape le vif d'or qui gagne.
On va dire que ça va être un peu comme tout à l'heure. Je vais quand même vous le dire. Il y a une thématique globale et il y a une thématique dans cette thématique. C'est donc des extraits de musique. Ce qui est rigolo parce que comme j'aime le chaos, je les ai enregistrés tout à l'heure et je les ai mélangés. Donc même moi, je ne sais pas ce que je vous envoie.
Voilà. Ça me rappelle un truc. Il y a 2 semaines, j'ai fait un blind test à l'envers. C'était très drôle.
Ah mon dieu.
En fait, c'était un truc. En plus, c'était trop bien. C'était avec les drag queens et tout. Une super ambiance, c'était dans un bar à Bordeaux et en fait ils passaient les musiques à l'envers et il fallait trouver ce que c'était. C'était ultra dur.
Mais c'était chaud.
Ouais.
Ah, hello, t'as tapé.
Alors c'est un générique de série.
Oui.
C'est Nip Tuck.
Non. Je vous laisse écouter jusqu'au bout. Vas-y Nico, ouais.
Non, j'ai coupé trop tôt, j'allais dire... Non. Je passe.
Non, c'est pas. Est-ce que vous donnez votre langue au chat ou est-ce que vous avez une dernière idée?
Pas d'idée.
C'est Jessica Jones.
Oui, bien sûr.
Ah oui, mais j'ai pas vu en entier.
J'ai pas vu du tout.
En fait, tu vois, j'ai une boîte à excuses à côté de moi. Et je vais cocher des mots.
Dis-moi, Marc, à tout hasard, le thème, c'est pas générique de série?
C'est effectivement générique de série le thème, hein, voilà, donc bien joué à vous. Je vous mets 2 points à toi et à Héloïse pour avoir trouvé le truc.
Pourquoi ils gagnent tous les deux des points?
Parce qu'on avait des meilleures excuses, nous.
Donc, vous avez trouvé la thématique, c'est effectivement générique de série télé. Mais dans cette thématique, il y a une autre thématique, et c'est ça là qu'il va falloir que vous trouviez réellement. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste que, en fait, en faisant mon truc de série télé, je me suis rendu compte que il y avait une constante et j'ai essayé de la garder. L'autre constante, c'est que c'est des séries que j'ai vues. C'est pas forcément des séries que j'aime, mais c'est des séries dont, par contre, je peux vraiment bien aimer le générique. Voilà.
Ok.
Okay.
Ou alors que le générique me rappelle quelque chose, etc. Là, par exemple, je savais pas du tout que c'était Jessica Jones qui allait tomber. C'est très rigolo. Pas rigolo. On se marre bien.
Il met du temps à démarrer.
Oui. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir à la durée que c'est un générique qui est assez long.
Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un truc que j'ai vu, mais je sais pas ce que c'est.
On dit quelque chose.
J'ai le même problème.
Ah, c'est là où je te rends compte qu'il y a plein de génériques.
Je suis pas sûr, mais c'est pas Heroes ?
Non, c'est pas Heroes.
C'est un truc comme ça, je suis sûr aussi.
Ça, il y a un peu un côté Heroes dedans, c'est vrai. Potentiellement, ouais, il y a un peu un ADN comme ça. C'est une série, je vous donne un indice, quand elle est sortie, elle a fait quand même un gros boom, quoi. Que ce soit négatif ou positif, d'ailleurs.
Qu'est-ce que c'est ?
Et elle a été très rapidement annulée aussi.
Est-ce que c'est un nom, ouais. Pas
oui, vas-y, Elia.
C'est pas Sense8 ?
C'est Sense8 ! Ah,
yes.
Bien joué.
Yes, 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 ouais, bien joué.
C'était effectivement Sense8.
Oh, l'autre thématique, c'est pas des séries Netflix ?
Tu tentes. En vrai, techniquement, t'es pas très très loin parce que tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de Netflix dedans et c'est logique compte tenu de la thématique.
Okay.
C'est pas des séries avec des gens avec des super pouvoirs ?
Ah, ça aurait pu être marrant aussi. Mais tu vas voir que c'est aussi techniquement un lien aussi avec...
en fait, il y a 5000 sous-catégories.
Oui, c'est ça.
Non, mais vous allez vous rendre compte que tout ça, ça a des liens au final.
Ah, mais si, je sais ce que c'est le lien. C'est des séries que t'as vues. Voilà.
Oui, bravo, tu as gagné 18 milliards de points.
Yes, merci.
Je vous avais donné la réponse pourtant.
Mais oui, il suffisait d'écouter l'énoncé. Ça me dit rien du tout.
Non, non plus.
C'est l'archipos un peu.
C'est vrai que j'ai pas mal aimé.
Ça a l'air vieux.
J'ai vu cette série, impossible de m'en souvenir du nom.
C'est une série, je peux vous donner un indice, c'est une série fantastique. Vas-y, Nico.
Je tente, c'est pas The Witcher ?
C'est pas The Witcher, non. Il y a un côté un peu cheap. Alors, c'est une série fantastique policière.
Ok.
C'est une série fantastique policière américaine.
De quelle année ?
2012, 2013, un truc comme ça.
C'est pas avec Eva Green ?
2011. Non, c'est pas... C'est pas le truc où Eva Green joue une sorcière.
Ouais, ouais.
Penny Dreadful ?
Non, c'est pas Penny Dreadful, c'est ça. C'est, je vous donne la réponse, c'est Grimm.
Ah. J'ai hésité en plus.
T'as hésité avec Grimm ? Ah merde.
Elle est pas si récente, 2011.
Et si, 2011, bah ça a déjà 10 ans. Hein.
Ah, c'est dingue.
Ah oui, oui, si. Oui, et elle s'est terminée en 2016.
Tout à fait.
Globalement. Si, bah je l'ai fini pendant mon master. Je me souviens, elle me tenait compagnie le midi.
Ouais, ça fait partie des séries classiques, on va dire, d'autrefois, qui m'ont tenu pas mal compagnie parce que c'était très sympa à regarder, que les personnages étaient cool, même si les scénars étaient pas oufissimes.
Moi, j'en et les effets spéciaux dégueux.
Les effets spéciaux dégueux, mais c'était les cool. Bonnes vieilles séries d'antan un peu cool, quoi. Voilà. Enfin, d'antan, il y a 10 ans, quoi.
D'antan.
On dirait que tu parles de l'inspecteur Barnabé.
Louis la brocante.
Louis la brocante. Oui, vas-y, Elia.
Pas Dexter ?
Non, c'est pas Dexter.
Qu'est-ce que c'est ?
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que...
Le problème avec Nexus maintenant, c'est qu'on regarde plus les génériques.
Oui.
On t'avoue, il faut toujours regarder les génériques.
J'adore regarder les génériques que j'aime. Comme celui-ci par exemple. Imprégnez-vous de l'ambiance de ce générique.
Ouais, mais ça fait un peu ambiance du sud, bossa
nova. Ah, c'est pas...
Ah, vas-y, Elia, ouais.
Narcos ?
C'est Narcos, exactement.
J'ai jamais vu, du coup.
Je vous conseille aussi Narcos, hein, si vous aimez les séries un peu policières sur la drogue, tout ça. Franchement, Narcos, c'est une excellente série. Narcos et Narcos Mexico, faut foncer direct. Moi, ils m'ont tenu pendant tout le premier confinement et je leur remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous.
Ouais, bah à voir, ouais, si j'ai l'occasion.
Si vous en avez l'occasion, à vous mettre dans la liste des trucs.
Ouais, c'est clair. Le tableau gigantesque qui est derrière moi.
Oui, vas-y, Héloïse, ouais.
Sherlock Holmes.
C'est effectivement Sherlock, tout à fait, qu'on ne présente plus, voilà, série culte, s'il en est.
Si bien.
Voilà, qui a révélé Benedict Cumberbatch chez Martin Freeman. Donc voilà, je pense que si vous n'avez pas vu Sherlock, bah, il faut voir maintenant, en fait, au moins les deux premières saisons. Voilà.
Le thème, ce serait pas série policière ?
Non, c'est pas série policière.
Est-ce que ce serait pas héros neuro-atypique ?
C'est pas aussi précis.
C'est trop cool comme thème.
Ça serait trop cool. Je vais vous balancer des thèmes qui sont trop cool à côté. Ma thème, il est nul à chier. Je suis beaucoup trop déçu. You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. Oui, vas-y, Elia.
Personne of Interest ?
C'est Personne of Interest.
Ah, j'ai reconnu sa voix alors que j'ai jamais vu la série.
J'ai reconnu grâce à Lost, à vous, c'est ça ?
Oui. Non, mais Benjamin Linus, c'est un de mes personnages préférés, j'étais obligée de reconnaître sa voix.
Alors, effectivement, c'est Person of Interest avec l'acteur, un des acteurs de Lost en personnage principaux. Donc ça m'étonne pas que tu aies été reconnu. vous avez vu Person of Interest ou pas ?
Non,
pas du tout.
Person of Interest, c'est une série qui a été créée par Jonathan Nolan. Et franchement, je pense sincèrement que c'est une des meilleures séries que j'ai regardées de ma vie parce qu'elle m'a tenu en haleine pendant 5 saisons. Et même s'il y a un côté très procédurier au début, en fait, t'as tellement de choses qui sont abordées dans cette série en termes d'anticipation et qui aujourd'hui sont devenues assez réaliste, moi je la trouve très très bien foutue et très très bien ficelée, et il faut que je me la revoie d'ailleurs parce que j'en garde un excellent souvenir. Voilà.
Tu penses qu'elle est toujours aussi plaisante à regarder ?
Ben, je sais pas si elle est toujours aussi plaisante à regarder, peut-être qu'elle a pris un coup de vieux, mais en tout cas elle date de 2011 aussi, elle est sortie en même temps que Grimm, c'était les deux séries que je regardais, la série Kali, Person of Interest, et la série Grimm, parce que voilà.
Et ça se finit ou...
Ouais, ça y est, une vraie fin. Okay. En fait, c'est une série où plus t'avances dans les saisons, moins t'as de fillers et de plus en plus t'es focus sur le scénar principal, en fait.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que t'as un scénar qui est en béton armé et qui était prévu depuis le début. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait, c'est une série qui a été prévue pour être fait en 4-5 saisons, quoi. Donc, ça fait plaisir aussi d'avoir des choses qui étaient calculées pour avoir une fin à un moment donné. Mais ça, bon, bah, c'est Nolan, quoi. Donc, c'est normal.
Ok.
Je suis un grand fan des
films. Ça aide.
Ça aide, exactement.
Alors, j'aurais dit The Musketeers ?
Non, c'est pas The Musketeers, mais il y a bien... Ouais, il y a un petit côté un peu...
Costume.
Il y a un truc costume, voilà.
Il y a des gens en costume.
Il y a des gens en costume, on va dire. Il y a des gens en costume qui se battent.
Je l'ai pas du tout, hein, perso.
Peut-être que vous l'avez pas vu. Alors, je vous le dis, c'est une série qui a eu un énorme succès, qui a eu beaucoup trop de saisons, beaucoup trop de spin-offs, qui a toujours des spin-offs à l'heure actuelle, et franchement, je comprends pas pourquoi. Oui, vas-y, Héloïse.
Outlander ?
Non, pas Outlander. Il y a des spin-offs à Outlander ?
Il me semble, wesh.
Ah merde, oh la vache.
Ouais, c'est dire vieux. À quel point...
Alors, je vais regarder de quand ça date, mais je crois que ça date aussi de 2011, il me semble.
Et il y a plein de spin-offs ?
Qu'est-ce que c'est comme série ?
C'est une série qui date de 2012.
C'est pas énorme.
C'est pas Downton Abbey ?
Non, c'est pas Downton Abbey. Je vous donne la réponse.
Des gens en costume qui se battent ?
Alors, c'est des gens en costume, pas des gens... C'est pas historique, mais c'est des gens qui ont des costumes. Ouais, c'est plutôt super-héros, effectivement.
D'accord. Avec plein de spin-offs. Ah, ça doit être à tous les coups un truc Marvel, j'imagine.
Je sais c'est pas Marvel. C'est
un truc DC.
C'est DC et c'est Arrow.
Ah, ah oui, cette bouse. Pardon.
Des milliards de spin-offs.
C'est gratuit.
Je ne savais pas qu'il y avait eu autant de succès sur cette série.
Ah, mais je crois qu'il y a genre au moins 8 saisons, je crois. Oh, attends, on va regarder. Oui, 8 saisons.
Arrow, ah ouais.
Il y a Flash. Tu dois genre avoir 6 ou 7 saisons de Flash. Il y a Supergirl maintenant, je crois. Il y a un mec qui s'appelle Lightning Man. Enfin, bref.
Et ils s'arrêtent plus. On les a lancés, c'est fini.
C'est fini, c'est fini. Et c'est la CW qui fait ça et pas ouf, quoi. Il faut s'arrêter à un moment donné, en fait. Voilà.
Ou pas commencer, c'est bien aussi.
Ouais, tu vois, il fallait essayer. Mais... Le
plastique de l'acteur principal, honnêtement, je trouve pas grand intérêt. D'accord.
Air and naval forces of the United States launched a series of strikes against terrorist facilities.
Oui, vas-y, Lia.
Homeland.
C'est Homeland, exactement.
Bien joué.
Homeland qui s'est achevé l'année dernière, je crois, si je ne m'abuse.
Ah ouais. Mon Dieu, c'est
ouais,
si long.
C'est terminé. Ouais, il y a pas si longtemps. Ouais.
Homeland qui est une série, moi je kiffe Homeland, hein. Franchement, ouais, il y a 8 saisons de Homeland.
Alors, j'ai jamais vu la fin et je me suis toujours dit que j'aimerais bien tout revoir justement pour voir la fin.
Ouais, moi j'étais un peu déçu de la fin, mais dans l'ensemble, je crois que la saison 4, 5, 6, 7, je les ai trouvés énormes. Franchement, c'est ouf. En plus, j'adore Claire Danes, donc moi je suis pas objectif, mais c'est une super bonne série. Et du coup, petite anecdote soit dit en passant, parce qu'il faut que je vous en parle quand même. La personne qui réalise, enfin qui compose la musique de Homeland, c'est Sean Callery, et qui est aussi la personne qui compose le générique de Jessica Jones. C'est pour ça que les deux ont un côté un peu sympa et que moi je surkiffe beaucoup. C'est pour ça que j'ai essayé de choisir et j'ai pas réussi, donc j'ai mis les deux.
Ok. Sans concession.
Toujours tellement de choses. Je suis ravi, au lieu de télétravailler, j'apprends des trucs, c'est trop bien. Je passe une super après-midi. Ah.
Oui, là, c'est la rapidité, là, putain. On avait presque oublié qu'il était dedans. Oui, donc du coup, Elia.
Game of Thrones.
Game of Thrones, oui, exactement.
Je me suis demandé si t'allais nous le mettre.
Oui,
c'était
je me suis demandé aussi.
Il a été obligé de le mettre. Thématique qui serait quoi du coup d'ailleurs, vu qu'on en est un peu à mi-parcours?
Fantasy.
Ouais, pas fantastique.
Non.
Générique de moins de 2 minutes.
Génial, comme une thématique. Et ben, on va passer à l'extrait suivant. Oui, vas-y, Héloïse.
Elementary.
Non, c'est pas Elementary. C'est une série qui est assez... que moi, personnellement, je trouve assez ouf.
Qu'est-ce que c'est ?
Peut-être que vous l'avez pas vu cette série, si vous l'avez pas vu, franchement, faut que vous la regardiez parce que elle est connue sans être connue, je pense.
C'est Star Trek Discovery.
Non, c'est pas Star Trek Discovery. C'est alors pour vous donner un indice, la personne que la fin du générique, vous entendez quelqu'un qui est dans un coffre et qui tape depuis le coffre parce qu'il est à l'intérieur.
Ok.
On est plutôt sur un truc thriller contemporain. C'est Fargo.
Non, j'avais pas.
Fargo, qui est la série du film des frères Cohen, et du coup la série est incroyable avec Martin Freeman d'ailleurs, tenez comme par hasard.
Comme moi, par hasard.
Ne serait-ce pas un thème commun?
À chaque fois, il y a Martin Freeman dans toutes les séries. Moi, je vous la conseille. Alors là, j'ai un peu triché parce que c'est pas à proprement parler vraiment un générique. Parce que, en fait, dans chaque épisode, ça commence par cette musique-là. Mais d'accord. En fond, t'as une scène qui commence à se dérouler directement derrière. Et t'as le générique qui est là dans le sens où à chaque fois, t'as un écran qui te dit cette histoire est tirée d'une histoire vraie, les noms ont été changés, etc. Nanana. Et en fait, en fond, t'as la musique et après t'enchaînes sur, sur l'action directement.
Est-ce que ton thème, très, très ce belle. Serait...
Oui.
Est-ce que ton thème, ce serait pas que ça, il y a des personnages qui sont anglais?
Non, vous allez chercher trop loin le thème, il est beaucoup plus simple que ça.
Est-ce que c'est des séries finies?
Ah.
Non, c'est ça ton thème?
Oui, elles sont toutes finies. Mais techniquement, c'est... Alors, c'est un hasard, c'était pas ça le thème. Mais c'est logique qu'elles soient finies, en fait.
Ok.
Mais c'est bien, comme ça, on peut les voir sans être frustrés. Oui. Sauf Sense8. Ouais, mais quoique, il y a une fin.
Après, il y a une fin.
Ah, il y a une fin.
C'est vrai.
Non, du coup, elles sont pas toutes finies. Oui, vas-y, Elia.
Westworld.
Ouais, c'est Westworld.
Ah oui.
J'adore cette série, elle est incroyable.
Ouais, elle est ouf. Bah, d'ailleurs, si vous voulez une autre anecdote, c'est Jonathan Nolan qui a écrit Westworld.
Ah. Mais c'est lui même qui est showrunner aussi.
Il est showrunner, c'est ça. C'est lui qui est derrière Person of Interest et Westworld. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thématiques qui sont les mêmes dans Westworld et dans Person of Interest.
Okay. Convainc de plus en plus.
Spécialement à partir de la saison 3 de Westworld. À tel point d'ailleurs que... Si t'as vu la saison 3, Elia, ou pas?
Ouais.
Ouais. À tel point d'ailleurs que je trouve que c'est presque du réchauffé en fait pour les gens qui ont vu Person of Interest.
Ah ouais?
À ce point.
Donc je vous invite vraiment à regarder Person of Interest parce que
okay.
C'est un qui est mieux géré, on va dire. Mais après, bon.
Et d'ailleurs, on ne s'est pas dit, mais Jonathan Nolan vient en tant qu'invité tout à l'heure.
Eh oui, il est là, au plateau. Bon, bah, il nous en reste plus que 4. Générique qui est assez assez connu parce qu'il a enfin c'est une série qui a un peu bouleversé le game, on va dire le game dans un genre un peu particulier.
Ouais.
Je sais que je l'ai vu.
Essayez de vous focaliser vis-à-vis des sons que vous entendez si vous êtes au casque surtout.
Impossible de la reconnaître.
À tout hasard, mais oui, personnellement, oui. Moi, je pense que je l'ai pas vu, mais c'est American Horror Story.
Non, c'est pas American Horror Story, c'est Daredevil.
Ah oui.
Ah, oui.
Ouais. En fait, j'aime beaucoup ce générique parce que je trouve là, en le réécoutant, en plus là, j'ai mon casque vu que je suis avec vous, je trouve que dans le son, vraiment le côté des autres sens qui sont développés, parce que t'entends les battements du cœur, t'entends les ondes un peu comme ce qu'ils captent avec le son, etc. Et je trouve ça très très intelligent, plus le visuel du générique qui est absolument ouf. Plus
la série. La musique est très stylée.
Ouais, c'est clair.
C'est une très très bonne musique, je trouve.
Ouais.
Si vous aimez les super-héros, bon, faut regarder Daredevil, parce que je pense que ça fait partie des meilleures séries super-héroïques, en fait. Surtout la dernière saison. Mais après, faut aimer le genre.
Ah, tiens.
Oui, vas-y, Nico. Elle est pour toi, celle-là.
Merde, je suis. C'est pas vrai. Le truc où ils sont dans l'espace.
Oui, ils sont dans l'espace.
Voilà.
Ils font quoi dans l'espace?
Oh putain, où ils font une enquête dans l'espace.
Oui, c'est une enquête dans l'espace.
Oui,
c'est.
Vas-y, Elia.
Vas-y, Elia. Ouais.
C'est pas The Express?
The Express.
Ça, merci.
Je le donne quand même, Nico, je suis gentil. C'est The Expanse, oui, effectivement, The Expanse, qui est un peu la série de SF, qui est pas terminée non plus, donc en fait, il y a des séries qui sont pas terminées. C'est le bouquin qui est terminé, pas la série. The Expanse, qui était une très très bonne série jusqu'à ce que Amazon la rachète. Mais pour ça, je vous invite à écouter le coup critique qu'on a fait avec l'ami Maxime sur The Expanse, où on déverse notre rage dessus.
Du coup, faut la regarder jusqu'à quelle saison?
Jusqu'à la saison 3.
Parce que moi, j'ai dû m'arrêter au milieu de la 2, je crois.
Jusqu'à la saison 3, c'est très bien. La 4, elle est passable. Et la 5, vraiment, c'est... Oh là là.
Moi, j'ai jamais vu, tu vois, la 5, je crois que je me suis arrêté. Je crois que j'ai vu juste le début de la 4 sur Amazon Prime, et puis je m'étais arrêté.
Ouais, tu vois, instinctivement, on a beaucoup moins envie après de regarder.
Je croyais que c'était Prime depuis le début, moi, c'était
Non,
qui qui...
c'est Syfy qui la faisait. Et en fait, elle avait trop d'argent, donc ils l'ont annulé et Amazon a racheté le bébé.
D'accord.
Et voilà, ils ont fait ça après derrière. C'est fou comme quoi qu'un changement de prod puisse détériorer autant une œuvre.
C'est triste.
Oui, Nicolas.
Dark.
Yes!
Ouais.
Bravo! Dark qui s'est achevé d'ailleurs l'année dernière, si je ne
Oui.
m'abuse.
Oui.
Et qui était très bien.
Excellent.
Incroyable, Dark.
Ouais.
Je pense que c'est une de mes plus grosses claques de scénario étant en termes de série. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est.
Mais je trouve que
Ouais.
ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que bah, Netflix a aussi ses bons côtés dans le sens où bah, c'est une série qui a pu être écrite de A à Z et produite pour ça, pour ce temps, et pas une série sur les chaînes à l'époque où c'était en mode ça marche, bah, on refait, on refait, on
Ouais,
refait, et
tout à
du coup on
fait.
épuise le scénario. Du coup, je trouve que c'est un bel aboutissement au niveau du
Ouais, elle est pensée
progrès
comme une
dans la
œuvre
série,
complète.
quoi. Ouais,
Ouais,
c'est
c'est ça.
ça.
Tu
Trop
sens qu'elle a
chouette.
effectivement été écrite de A jusqu'à Z, et franchement,
Et moi, ce que je kiffais, je sais pas si vous l'avez vu tout seul ou avec d'autres gens, mais quand t'es avec d'autres gens et que tu regardes ça, en fait, tu en discutes pendant des heures après.
Pareil, j'ai vu
Trop cool ça.
tellement de théories
Mais oui, c'est ça. Mais tant que t'as pas vu en entier, en fait, tu peux
tu
pas
sais
avoir
pas.
toutes les réponses.
C'est la série où tu as toujours constamment un graphique à côté pour te souvenir de quel
Ouais.
perso, qui fait
Clairement.
quoi, où est-ce qu'il est,
Je
comment,
sais pas
pourquoi.
si t'es allé sur le site de la série où en fait épisode par épisode tu pouvais avoir justement le graphique avec tous les personnages et les liens entre eux.
Oh,
Et
le
à
site
chaque
est
épisode, du coup, tu
incroyable.
pouvais faire suivant pour que ça se débloque et
Ouais,
puis t'avais plus d'infos. C'était trop bien fait.
trop bien. Franchement,
bah, tu vois,
ils ont géré.
Marc, tu parlais de je ne sais plus quelle série qui a sauvé ton premier confinement. Moi, ça a été Dark.
Ah, mais c'était Narcos, mais c'est Dark, j'avais déjà regardé. Mais je pense que Dark m'aurait bien, bien kiffé pendant le premier confinement. Mais
Mais du
ouais,
coup, ça
c'est.
passait trop vite pour 2 mois.
Ouais,
Ouais, tu m'étonnes.
ouais, nous, on a dû attendre à chaque fois 1 an avant d'avoir la suite. Et franchement, c'était une
J'avoue que
torture.
c'est mieux de pouvoir
Ça a été une
la binge
torture.
watcher pour le coup parce que tu comprends rien quand tu es entre les saisons. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais entre la 1 et la 2, Netflix avait vraiment pas fait de résumé. Et du coup, tu es là. Je sais plus qui est qui.
Je me souviens, je me souvenais plus de rien du tout. Et
Ça va être raide.
ouais.
Après, ça se re-regarde très facilement aussi la première
Et
saison.
du coup, je vous laisse lancer le dernier extrait. Oui, Elia.
10%.
C'est 10% exactement. 10% qui est une série donc française qui s'est aussi achevée l'année dernière, je crois. Moi que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous l'avez pas vu.
Pas à moitié achevé du coup parce que finalement ils la relancent.
Et ils vont la
Ah
relancer?
oui? Bah, ils vont faire un film et après ils vont refaire je crois.
Ah putain, ouf, d'accord, je savais pas. D'accord, bah c'est cool.
Bon, je trouve qu'elle s'achevait bien comme elle l'est.
Bah oui, je trouve un peu dommage de. Surtout qu'ils avaient dit ok, c'est vraiment fini. J'avais lu plein d'interviews, c'était vrai de vrai. Et genre un mois après la fin, non, bah en fait, finalement, on
Ouais,
reprend.
c'est genre
Ok.
de série où t'as tellement de succès qu'ils arrivent pas à s'arrêter derrière.
Les sous, les
Ouais.
sous, les sous.
Et ainsi donc s'achève ce blind test. Est-ce que vous avez une dernière idée de la thématique? Je vous redis les séries qu'on a eues aujourd'hui. Alors, il y avait Narcos, Game of Thrones, Sherlock, Arrow, Westworld, Daredevil, Jessica Jones, Sense8, Grimm, Person of Interest, 10%, Homeland, Fargo, Dark, The Expanse. Alors, est-ce que vous avez une idée?
Il y en a quasiment une dans chaque genre, grand genre, mais c'est tout.
C'est donc que c'est pas le genre qui est
Ouais,
important.
je sais pas. Elles sont toutes sur Netflix, moi je reste là-dessus. Hein.
Mais non, Game of Thrones n'est pas sur Netflix.
Non,
Ah oui, c'est vrai, mais oui.
et The Expanse c'est pas sur
Pas fin.
Netflix, Westworld n'est pas sur Netflix. Je vous donne la réponse?
Oui.
Ouais.
Risque de vous en vouloir, hein, je pense. Hein. C'est que des séries qui datent des années 2010.
Ah.
Ouais.
Ah, pas bête.
Pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont sur Netflix, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont des séries de 8-10 épisodes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs de super-héros, de pour adultes, etc. etc. Et qu'il y a pratiquement
Ok.
zéro sitcom aussi.
Ouais.
Parce qu'en fait, finalement, ça montre bien aussi un peu le changement d'air qu'on a vécu dans les années 2010 en termes de séries et de manière de produire aussi une série et de voir une série, je pense, d'une certaine manière.
Ouais, c'est très intéressant.
Et je trouvais ça assez rigolo parce que instinctivement, en fait, quand j'ai cherché des génériques qui m'ont marqué, que j'aimais bien musicalement, etc., très rapidement, je me suis rendu compte que c'était que des séries des années 2010. Et non pas que les génériques des séries d'avant sont moins bien, mais c'est juste qu'il y a, je pense, un travail qui a changé un peu en termes de générique, qui font qu'ils sont quand même esthétiquement toujours assez stylés à voir. Et assez paradoxal, puisqu'on nous incite de plus en plus à les passer.
Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que maintenant, on a quasiment plus de travail sur les génériques, justement parce qu'on les passe?
Ouais, mais c'est bizarre, parce que justement, il y a de plus en plus de travail dingue sur les génériques, alors que sur les anciennes séries, les génériques, ils durent souvent 10-20 secondes, quoi. C'est genre... Et puis t'as le logo, et puis c'est tout. Est-ce que ça vient du fait que comme ça passait à la télé, il fallait que le générique soit court pour que le temps d'écran de l'épisode soit le même, alors que finalement sur une plateforme, vu que tu passes le générique, tu t'en fous que le générique dure 1 minute 30?
Il semble que sur Netflix, des fois, t'as des séries où t'as des génériques qui durent 5 secondes aussi. Des séries assez récentes, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais je me rappelle avoir vu ça. Où c'est juste un petit air musical et c'est tout. Et en fait, tu passes le previously en fait.
C'est le cas pour Sex Education, ouais, effectivement, où je crois qu'il n'y a pas de générique.
J'ai l'impression que les années 2010 étaient vraiment l'ère des génériques, où c'était vraiment le concours de qui a le générique le plus stylé, le plus long, avec la meilleure musique, et je trouve ça très cool personnellement. Et en effet, je pense que c'est sûrement, comme vous dites, à cause des plateformes comme Netflix et tout ça, où finalement on passe un peu les génériques maintenant, que du coup on revient à juste un panneau très simple pour annoncer le titre de la série, et on a arrêté en fait ce truc de générique, j'ai l'impression.
Ouais, peut-être, ouais.
C'est clair. Je sais pas ce que vous en pensez.
Après, je pense que ça empêchera pas non plus des séries qui sont hyper cohérentes d'un point de vue esthétique. Je pense d'avoir des génériques qui marquent un peu comme celles des années 2010 là. Enfin, je pense principalement à Game of Thrones, le générique, il a marqué des générations entières de gens.
C'est pour ça que je pouvais pas ne pas mettre Game of Thrones dans un truc de générique des années 2010, parce que c'est
vrai que c'était.
C'est assez dingue. D'ailleurs, j'ai une petite précision, c'est assez rigolo, parce qu'il y a beaucoup des génériques que j'ai mis qui ont été composés par Amin Djawadi, qui est un compositeur de...
C'est vrai ?
Qui a notamment composé Person of Interest, Westworld et Game of Thrones dans la liste des séries que j'ai mis. Et c'est marrant de se rendre compte qu'il a été assez prolifique justement en termes de composition de musique de séries pendant les années 2010. Voilà, parce que je trouve que ses compositions sont assez ouf à chaque fois.
Ouais, clairement.
C'est parti de la bande de Hans Zimmer, d'ailleurs.
Ce que j'allais dire, c'était le Hans Zimmer des séries des années 2010.
C'est ça, exactement. Il a bossé pour Hans Zimmer en Californie, d'ailleurs, pendant de nombreuses années, donc il fait partie de la même vibe, on va dire.
Ok, cool.
Ça explique.
Ben voilà, sur ce, je pense que cette émission ne va pas tarder à s'achever, mais étant donné que c'est un épisode final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des remerciements.
Oh, c'est gentil.
Ben oui. J'aimerais remercier ceux qui sont présents parmi nous. Merci à vous. Merci à vous trois d'avoir bien voulu venir participer à ce petit final, cette petite émission en petit comité avec des trois petits jeux que j'ai préparés un peu à l'arrache ce matin malgré mon mal de gorge qui, je me rends compte, s'entend de plus en plus, je pense, à travers le micro. Ça m'a fait plaisir de faire ça en votre compagnie.
Et c'était chouette. C'était très cool.
Merci. Et avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver, Nico, par exemple?
Je pense que je sais pas ce qu'il en sera de l'avenir de tout et de rien, mais sachez que j'ai une chronique en préparation, donc c'est assez ouf.
Ah, c'est vrai. Ah, cool. Eh bien, trop bien, c'est bien qu'on te revoie pour la saison 3, alors.
Il va falloir me revoir pour la saison 3 aussi.
Et toujours sur Twitch aussi ou pas?
Je suis beaucoup moins sur Twitch depuis qu'on n'est plus confiné et puis depuis que c'est plus les vacances. Donc ça va être compliqué. En revanche, je pense qu'il y aura d'autres projets sur lesquels je participerai, notamment avec toi, Marc, et puis avec d'autres personnes du
et
podcast.
Avec d'autres personnes,
où on va se retrouver sur Twitch. J'ai très bon espoir pour que ça arrive. Et sinon aussi sur YouTube, forcément, bien sûr.
Forcément, effectivement. Et d'ailleurs, sachez, chers auditeurs, que normalement, si tout se passe bien, vous retrouvez la voix de Nicolas dès la semaine prochaine pour un petit projet secret, normalement. Il y a un endroit où on peut te retrouver, en particulier une page à laquelle les gens peuvent liker ou autre.
Oui, vous pouvez me retrouver sur ma page actuellement assez inactive, un peu plus active, ma page Facebook Elia Sparrow. SPA2REAUX, c'est ma page auteur. Sinon, je ne suis sur aucun autre réseau social.
Hello, je sais pas si tu as une promo d'un truc à faire de toi ou de quelqu'un d'autre, une conf peut-être.
J'aimerais dans le futur pouvoir vous annoncer un projet trop cool sur lequel je suis actuellement en train de travailler de manière intensive. Mais vu que je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, on va plutôt dire que s'il y a une saison 3 de Tout de Rien, vous m'y retrouverez là. Et j'espère pendant cette saison 3 pouvoir vous annoncer une excellente nouvelle par rapport à ce que je suis en train de faire de manière intensive.
Ok, bah okay. Super, ça c'est du bon beau gros teasing. Et du coup, je vais quand même parler à la place des différents absents. Dans cette saison, par ordre d'apparition, on avait aussi Benoît. Merci à toi Benoît d'avoir bien voulu participer pendant les premières émissions de cette saison, les trois premières émissions. Ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous, Benoît. Je sais pas ce qu'il en est, mais vous pouvez potentiellement le retrouver sur les planches à Lyon, les planches de théâtre, hein, bien évidemment. Jeff, l'ami Jeff, on le voit plus trop souvent en ce moment, mais je voulais quand même le remercier pour ses différentes participations, notamment pour les différents coups critiques. Un grand merci également à Tiffany, notamment pour ses dernières participations, pour le gros travail de documentation qu'elle a fourni pour le spécial secte, avec notamment le temple du peuple, qui était incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter très rapidement. Je voulais aussi remercier Manon qui a participé à bon nombre d'émissions au cours de cette saison 2. Manon que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site internet Les Mythes de l'Amphisben, où elle écrit de nombreux articles pour partager des anecdotes mythologiques et autres monstres, ainsi que certaines formules magiques. Allez, faire un tour, c'est vraiment super intéressant. Merci aussi à Alex, j'espère qu'il va bien, il est venu qu'une seule fois, il est venu que deux fois pardon cette saison. On lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Jules qui est incroyable, parce que Jules il est un peu partout dans le monde, mais qu'en même temps il est quand même ici, qu'il a bossé sur le projet qui arrive la semaine prochaine, un projet qui est assez fifou si je puis dire. En compagnie de Jules, je voulais aussi remercier Julien et Johan pour leur participation au spécial Masse d'Asile qui était sorti pendant le deuxième confinement, donc merci à vous deux d'avoir participé. Je voudrais pas non plus oublier Raphaël qui a participé à de très nombreuses émissions, qui est pratiquement co-animateur de l'émission à l'heure actuelle. Pas non plus oublier Romain que vous pouvez retrouver sur Twitch aussi de manière très régulière, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Ne pas oublier non plus Sébastien qui est un petit peu le joker que je sors de ma poche quand j'ai des absents qui débarquent, et lui il accepte toujours de venir même au dernier moment, donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Remercions aussi Maxime qui est beaucoup moins présent cette saison-là, mais qui pourtant revient quand même toujours pour les épisodes spéciaux et qui notamment est à l'origine de l'émission Coup Critique, où on fait des coups critiques sur le cinéma. Donc merci à toi Max d'avoir proposé ça, parce que c'est super cool comme idée. J'en profite aussi pour signaler que vous pouvez retrouver Maxime tous les mercredis sur sa chaîne Twitch Pudingue. Allez y faire un tour aussi, c'est vraiment super sympa. Et Maxime, il a le don un petit peu pour créer de l'entertainment, donc allez y faire un tour, c'est vraiment très cool. J'aimerais aussi remercier Mickaël, qui nous a permis de lancer aussi une nouvelle émission Fumble Rumble, qui est aussi une émission de JDR que vous pouvez aller écouter sur la chaîne, donc merci à toi Mika. Également remercier Benjamin, qui de temps en temps nous a fait l'honneur de sa présence, notamment aussi sur le spécial secte, où il a mis le paquet en parlant d'une secte japonaise. Remercions aussi Léopold qui a bien voulu venir faire le remplaçant à plusieurs reprises, de même que Ismen qui a fait exactement la même chose.
Je tiens également à préciser que vous pouvez retrouver Ismen sur son blog Le Vent dans les Steppes, où elle y parle notamment beaucoup de littérature de manière générale. Allez y faire un petit tour, c'est vraiment très très cool également.
Et enfin en bonus, j'aimerais remercier Colin et Jen qui ont participé au spécial Harry Potter.
Spécial Harry Potter auquel Lila a également d'ailleurs participé, merci à elle. Lila que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Le Chat-Huant, où elle parle notamment de préhistoire. Et à ce propos, il est temps pour moi de vous annoncer aussi une chose, c'est que potentiellement nous avons un petit projet commun avec Lila qui ne va pas tarder à arriver sur l'internet français. Je n'en dis pas plus, je reste une tombe pour le moment.
Sur ce, il est temps de remercier les personnes les plus importantes de cette émission, à savoir vous, chers auditeurs qui êtes chez vous, qui nous écoutez, parce que si vous ne nous écoutez pas, bah du coup, en fait, ce qu'on fait, ça sert absolument à rien du tout. Donc, merci à vous de nous écouter, et puis d'être là, et puis je suis sûr qu'on se retrouvera très très vite l'année prochaine pour une saison 3. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, on peut se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau petit truc un peu secret. Du coup, à la semaine prochaine. Mystérieux.
Pas très grand.
Des secrets.
Alors, est-ce que Elia, tu peux parler un petit peu?
Oui, bonjour, c'est moi. Vous m'entendez?
Oui, parfait, super. Oui. Est-ce que Hello, tu peux parler un peu?
Oui, bien sûr, que veux-tu que je dise? Il faut que je meuble, que je fasse des poètes, des tutes, des proutes pour que tu puisses régler le micro.
Ça ira. Et Nico, une dernière fois.
Oui, bonjour, je suis Nicolas, et puis on ne m'a pas vu sur des TDR depuis au moins 6 mois.
C'est vrai. Ok, je vais réécouter tout ça. Ah, ça, c'est un camion.
Ah, ah non, oui, c'est moi, ça.
Non, on entend bien.
Ouais, il est bien audible.
Ça va être comme ça tout l'après-midi, je pense. Vous voulez que je coupe mon micro, peut-être?
Ah, ça y est, c'est fini.
Mais sinon, on fait un jeu, on devine ce qui se passe.
On devine ce qui se passe derrière chez Elia.
Tu nous dis si on a raison.
Ça marche. Vous devez deviner ce qu'ils construisent et exactement le nombre d'employés.
Au pire, Elia, ouais, si jamais tu sens qu'il y a trop de bruit, mute toi et démute toi quand tu veux parler, comme ça c'est plus sympa.
Ça va être
quand même régulièrement, reste pas mute tout le temps non plus.
Le personnage fantôme.